Donc ma présentation concerne effectivement, comme l'a dit Madame Cuenca, le travail de fin d'études que j'ai mené dans le cadre de mon diplôme de restaurateur du patrimoine, pardon, à l'INP de novembre 2010 à juillet 2011. Ce travail a été réalisé en collaboration avec le laboratoire de la Bibliothèque nationale de France. Il concerne l'étude et la restauration d'une maison de poupée qui est conservée au Musée des Arts Décoratifs à Paris et qui est actuellement exposée à La Haye. Donc je présenterai tout d'abord une synthèse de l'étude historique et technique afin de replacer l'objet dans son contexte de création. Puis je décrirai les traitements, en tout cas quelques exemples de traitements qui ont été effectués pendant 3 mois dans les ateliers de l'Institut national du patrimoine. La maison de poupée, en général, peut être un jouet, mais elle peut aussi être un objet représentatif, décoratif ou éducatif. Dans le cas de la maison miniature de notre étude, qui porte le numéro d'inventaire 3605, elle est à la fois démonstrative et décorative. Datée du XIXe siècle, elle est constituée de 2 parties disjointes qui se superposent et elle mesure 79 cm de haut sur 54 de large et 39 de profondeur, pour une masse de 11 kg, 54. La partie inférieure contient 7 volumes. Que nous avons choisi d'appeler vestibule, cabinet de travail, salle à manger, cabinet de toilette, chapelle et pièce aveugle. La partie supérieure ne contient quant à elle qu'une pièce, qu'un seul volume, que nous avons appelé le salon d'apparat. Le style décoratif de l'ensemble est hétéroclite et balaye l'ensemble des modes du XIXe siècle, à travers les costumes des figurines, les bibelots, mais également le mobilier. La maison 3605 est un objet composite. Plus de 20 matériaux différents, de nature à la fois organique et inorganique, sont présents. Elle contient 100 d'objets répartis dans les différents volumes. Néanmoins, nous pouvons simplifier son approche comme suit. La maison est construite avec des éléments en pin qui peuvent être pointés, collés ou assemblés, avec du bois coupé, débité, sur dos ou faux quartier. Les panneaux de bois sont ensuite décorés de papier dit de fantaisie, utilisé couramment pour la reliure et la tabletterie, et tous les volumes sont fermés par des vitres. On peut résumer ainsi la chose, c'est-à-dire que les 3 matériaux les plus présents sont le bois, le papier et le verre. Les 2 parties constitutives ne sont pas construites sur le même modèle. La partie inférieure respecte la construction habituelle dans la tradition des maisons de poupées, à savoir qu'on va construire d'abord le bâti et qu'on va ensuite construire les différents volumes qui vont s'intégrer les uns à côté des autres dans la structure. Quant à la partie supérieure, elle ne présente pas du tout cette caractéristique. On peut donc conclure que les 2 parties n'ont pas forcément été fabriquées au même moment pour être superposées ensemble. Donc, la maison entre dans les collections du musée en 1949. Avant cela, elle fait partie de la collection de jouets et poupées ethnographiques d'Aline Martel, qui est l'épouse d'Édouard Martel, qui est un éminent spéléologue qui voyage à travers l'Europe, et son épouse le suit dans ses voyages, et c'est comme ça qu'elle se constitue cette collection. Elle est la fille d'Alphonse Delaunay, donc Aline Martel, la donatrice, qui lui-même est un intellectuel éclairé qui a beaucoup voyagé. Disciple de Gustave Le Grey, il a mené un important travail de reportage photographique sur les costumes des paysans espagnols entre 1851 et 1854. Ce sont des détails qui sont importants ensuite dans l'histoire de la maison. Le couple Martel, donc Édouard et Aline Martel, s'installent en Forez dans leur château familial en 1922. Et la collection des poupées et objets ethnographiques d'Aline Martel est montrée. Elle décide de la montrer dans le salon rose du château et elle invite les enfants des environs à venir regarder les jouets, elle-même n'ayant pas d'enfants. Et il leur est donné comme consigne de les regarder, mais ils ne peuvent pas les toucher. Aline Martel meurt en 1951 et le reste de sa collection est presque exclusivement donné au musée d'Allard de Montbrison. Les observations approfondies et les résultats des analyses menées par les laboratoires de l'INP et de la Bibliothèque nationale de France ont permis de constater que la maison a été plusieurs fois remaniée au cours du temps. repeinte, redécorée et revernie, ces opérations ont toute une place et une signification particulière dans son histoire. Nous avons tenté, pour comprendre ce caractère accidenté de son esthétique, d'établir une chronologie, en nous basant toujours sur les éléments qui nous ont été donnés par les analyses, mais aussi par les différentes techniques que nous avons observées, les différents matériaux utilisés et les traces d'outils. Et ce sont ces éléments-là qui nous ont orientés dans nos choix de restauration. Donc, si nous recoupons les aspects historiques et techniques, l'objet semble avoir été fabriqué vers 1840 en Espagne ou au Portugal, comme l'indiquent certains éléments inscrits sur l'objet en lui-même. Certains éléments contenus sont de fabrication industrielle, artisanale ou le fait d'un amateur, selon certains ouvrages de référence qui circulaient au XIXe siècle, qui peut être une pratique assez courante dans le domaine du collectionneur, de fabriquer lui-même les objets qu'il va mettre dans sa maison de poupée. Le papier qui décore les différents volumes est un papier vélin, qui se généralise après les années 1830. Les analyses de fibres effectuées au laboratoire de la BNF par Tifong Nguyen ont montré qu'il s'agit d'un mélange de fibres textiles et de bois par traitement chimique qui se développe après 1854. Enfin, pour la datation, la date de 1889 est inscrite sur un papier de consolidation. Cette date correspond peut-être à un moment où l'objet est arrivé en France et où certains éléments du décor ont été modifiés. La présence de bandes adhésives en cellophane et latex naturel à différents endroits de l'objet nous permet d'affirmer qu'une intervention a eu lieu dans les années 30, puisque les bandes adhésives qui utilisent comme support le cellophane et comme adhésif le latex naturel est un système qui a été mis au point en 1929 par la fibre 3M, et après 1945, le caoutchouc naturel est remplacé par du caoutchouc synthétique. Donc, d'autres éléments ont été collés avec une résine époxyde qui allait commercialiser aux environs des années 50. Donc, ça peut nous permettre de dater un certain nombre d'interventions sur l'objet. L'ensemble est recouvert d'un vernis, d'une épaisse couche de vernis hétérogène. Et l'étude réalisée au laboratoire de l'INP a mis en évidence la présence d'une résine alkyde couramment employée dans la fabrication des vernis cellulosiques. Donc, ici, on peut voir ce vernis sous lumière ultraviolette. De plus, l'étude stratigraphique des différentes couches picturales a montré la succession de plusieurs décors particulièrement visibles sur la pyramide tronquée, qui est le couvrement de la partie supérieure. Donc, cette coupe stratigraphique ici permet de voir un premier décor rose recouvert de vernis, puis un décor bleu qui recouvre l'ensemble, avec des réaux de bronzine qui sont venus recouvrir le décor alors d'origine. Voilà, donc ensuite on a des modifications au niveau des décors en papier et une pièce, la chapelle, qui a été entièrement modifiée et redécorée. Donc suite à ces informations, il nous est apparu que la maison a été en partie redécorée par ses propriétaires et les collectionneurs qui la possédaient. Mais nous ne savons pas exactement à quelle période elle a été acquise, que ce soit par la famille Martel, Aline ou son époux Édouard, ou la famille Delaunay, c'est-à-dire le père de la donatrice. Et si on met en corrélation les résultats des analyses avec l'histoire de la famille, on peut arriver à l'hypothèse suivante. Alphonse Delaunay voyage en 1851 en Espagne. Il a pu acquérir la maison à cette occasion, comme le montrent les éléments écrits en espagnol. La maison a été sans doute ensuite ramenée en France, puis modifiée et redécorée. Aline et Édouard Martel se marient en 1890, donc il se peut que la maison ait été donnée comme cadeau de mariage par Alphonse Delaunay à sa fille Aline Martel, mais nous n'avons pas de trace de cet élément dans son histoire. Et Aline aurait pu alors la remanier à son goût avant de la donner au musée. D'autres opérations, cette fois de consolidation ou de restauration, ont été menées après son arrivée au Musée des Arts Décoratifs, une intervention qui a eu lieu dans les années 60 et une intervention dans les années 70, d'après la fiche d'œuvre. Par ailleurs, de nombreux éléments de décor renvoient à l'histoire de la famille. L'objet a été également déplacé plusieurs fois. Pour les éléments qui renvoient à l'histoire de la famille, Donc on sait que le grand-père d'Aline Martel a servi dans la marine royale, que son père était officier des hussards, dans le corps des hussards, qu'il a beaucoup voyagé en Italie et en Espagne. On sait aussi que la famille Martel est une famille de fervents catholiques, la famille Delaunay aussi, on a l'élément de la chapelle, et que la musique tient une grande part dans l'éducation des enfants Delaunay, donc Aline Martel et ses frères. Donc en conclusion, l'objet aurait été fabriqué autour des années 40, mais nous ne savons pas quand les deux parties ont été superposées. Des modifications ont probablement été opérées par les propriétaires des années 1860 aux années 50. Il s'agit sans doute d'un objet unique qui pourrait fonctionner comme un album de famille. Pour ce qui est du constat d'état, donc, nous avons séparé trois catégories d'altérations, les altérations de l'ensemble des surfaces, du contenant et du contenu. Donc, l'ensemble des surfaces est empoussiéré et encrassé. L'objet n'a pas été conservé dans des conditions favorables tout au long de son histoire. Les éléments en bois sont décollés et désolidarisés. Des fentes sont visibles sur les panneaux de fond. Certains panneaux sont déformés. Et des assemblages présentent des instabilités. Le choix des matériaux de construction, c'est-à-dire des panneaux de pin coupés sur dos, ainsi que le mode de fabrication par collage ou par pointe, par assemblage par pointe, ont pu causer des contraintes mécaniques responsables de ces altérations. À cela s'ajoutent les différentes manipulations, ainsi que le climat dans lequel l'objet a été conservé. Les papiers de consolidation sont déchirés et lacunaires, montrant qu'il y a eu plusieurs opérations de consolidation, notamment sur les plafonds de la partie inférieure. Les éléments en verre sont brisés ou fêlés, altérations causées sans doute par les manipulations au moment des différents déplacements. Les éléments métalliques sont corrodés, témoignant du fait que l'objet a été conservé dans un climat humide, comme le montrent également le gondolement et le décollement des papiers. Ils sont également déchirés, montrent des trous et sont pour la plupart décolorés, ayant été soumis à une importante exposition à la lumière. Les couches picturales et les vernis sont dans l'ensemble usées, craquelées et soulevées. Et on retrouve ces altérations sur les éléments contenus dans la maison, c'est-à-dire des cassures, des soulèvements et des lacunes de couches picturales, des trous, des décollements et des désolidarisations. La corrosion d'éléments métalliques et le cas particulier du désamalgame du mercure des teints de certains miroirs. Ces altérations ont donc trois causes principales, l'objet en lui-même, sa mise en œuvre, le choix des matériaux, comme on l'a vu, débité sur dos en ce qui concerne les planchettes de bois, et sa nature composite, puisque cette nature implique des interactions néfastes entre différents matériaux qui ne sont pas toujours compatibles, notamment comme le bois et le métal. Le facteur humain est la deuxième source d'altération, les modifications, l'entretien, les transports et manipulations ont pu causer la plupart des désolidarisations et des cassures. Enfin, l'environnement dans lequel l'objet a été conservé au cours du temps n'a pas toujours été adapté. Les variations climatiques sont à l'origine d'une fatigue mécanique des matériaux hygroscopiques et un confinement en atmosphère sombre et humide a favorisé la corrosion des métaux et les attaques biologiques. À cela s'ajoute un manque de protection, contre la poussière et la lumière. Les opérations de restauration ont été menées selon trois axes. D'une part, il était important de stopper les dégradations évolutives, de stabiliser l'objet car son état de conservation n'était pas satisfaisant. En effet, il ne pouvait pas être manipulé sans risquer de l'endommager ou de causer de nouveaux bris ou de nouvelles déchirures sur les décors en papier. Il était souhaitable de lui rendre l'aspect éclatant de son foisonnant décor tout en respectant les différentes étapes de son histoire. La maison de poupée fait aujourd'hui partie d'une collection muséale. Elle est donc destinée à être montrée à un public. Les interventions devront permettre la compréhension de l'objet et des valeurs qu'il véhicule. Pour cela, nous avons tenté de choisir les produits adaptés à chaque matériau, après de nombreuses discussions et de nombreux échanges avec des restaurateurs spécialisés dans tous les domaines qui concernent notre objet. Nous avons cherché à restreindre nos choix afin de ne pas multiplier excessivement l'apport de matériaux contemporains. Et les traitements ont été réalisés en accord avec les responsables de l'objet, suivant les principes de déontologie qui régissent notre profession de restaurateur du patrimoine, la lisibilité, la réversibilité, la stabilité et la compatibilité des matériaux. Afin d'accéder à l'ensemble des volumes, un démontage s'est avéré nécessaire. Les plafonds de la partie inférieure ont été désolidarisés et la vitre de façade que l'on voit ici, de la partie supérieure, a été retirée. Les opérations de nettoyage et de décrassage ont été menées, dans certains cas, simultanément aux opérations de refixage. Différentes méthodes ont été employées en fonction de la fragilité et de la porosité des matériaux à traiter. Un micro-aspirateur et un pinceau doux ont été utilisés pour les surfaces fragiles. La poussière et l'encrassement des papiers ont été retirés avec une gomme latex, c'est-à-dire par une méthode sèche. Le bois brut a été nettoyé avec une gomme en caoutchouc, accompagné d'une solution contenant un agent chélatant, le triammonium citrate, dilué à 3% dans l'eau déminéralisée. Le vernis cellulosique des parties extérieures a été nettoyé à l'eau déminéralisée. La corrosion des éléments métalliques a été ôtée à l'aide d'un pinceau à fibre de verre, opération menée sous loupe binoculaire, en collaboration avec l'atelier des arts du feu de l'Institut national du patrimoine. Pour stabiliser la structure, nous avons utilisé de la colle protéinique. Les résidus de colle ancienne dans les assemblages ont été nettoyés, puis nous avons utilisé cette colle qui a été chargée à différents endroits de microballons phénoliques. Parce que comme le bois avait joué, on n'avait plus l'accroche nécessaire dans certains assemblages, et donc il a fallu charger la colle pour combler l'espace qui pouvait créer cette instabilité dans les assemblages. Pour combler certains éléments instables, nous avons utilisé également des taquets en balsa, qui ont ensuite été retouchés à l'aquarelle. Ici, c'est l'arrière d'un pilastre d'un des côtés de la partie supérieure. Les verres ont été consolidés avec une solution à base d'adhésif acrylique, le paraloïde B72. Et les décors en papier, quant à eux, ont été refixés avec la méthode sèche que nous avons élaborée lors d'une étude en collaboration avec la Bibliothèque nationale de France. Nous avons utilisé un film sec d'une dispersion acrylique de la marque Lasco, le Medium for Consolidation, qui a été testé avant et après vieillissement et qui est souvent utilisé pour le refixage en peinture murale. Le film est séché pendant 24 heures, puis découpé à la dimension voulue, placé entre deux feuilles de papier japonais, de porosité différente selon le support, c'est-à-dire selon qu'il va être côté bois ou côté papier. Il est réactivé ensuite à la chaleur, avant d'être placé entre le support bois et le décor en papier. Le tout est à nouveau réactivé à 60 degrés, à l'aide d'une spatule chauffante. Et voici le résultat de cette opération après restauration. Les papiers de consolidation des plafonds et des arrières ont été refixés avec le même film sec, qui a été réactivé de la même manière. Nous n'avons pas effectué de retouches dans ces zones, car elles ne sont pas visibles lorsque l'objet est exposé au public. Les couches picturales ont été refixées avec ce même adhésif, le Medium for Consolidation, dans sa formule aqueuse, enfin dans sa formule commerciale, pardon, en solution aqueuse. Pour choisir l'adhésif adapté au refixage des objets désolidarisés en matériaux organiques, nous avons mené des recherches autour des pratiques courantes dans le domaine de la restauration des objets ethnographiques et textiles et arts graphiques, et nous avons utilisé une autre résine acrylique dont l'aspect visqueux nous permettait de positionner facilement les objets à l'aide d'une pince sans avoir à exercer une pression trop importante. Les éléments en papier d'écarlage ont été refixés avec le même adhésif. Pour ce qui est des éléments en matériaux inorganiques, nous avons utilisé pour les refixer du paraloïde B72, toujours en collaboration avec l'Atelier des Arts du Feu de l'Institut National du Patrimoine. Une fois l'objet stabilisé, nous avons effectué des opérations de mise en valeur, notamment sur les figurines. Elles étaient toutes recouvertes d'un vernis à base de colophane, qui est un vernis qui a tendance à beaucoup s'oxyder. Nous avons donc décidé de retirer le vernis oxydé sur certaines parties, et afin de redonner une lisibilité au visage. Le tout a été ensuite recouvert d'un vernis aliphatique afin de protéger l'ensemble. les comblements qui ont été effectués sur les manques des tuiles du toit de la pyramide tronquée ont été retouchés ensuite à l'aide d'une peinture acrylique, pardon. Et ce choix a été fait parce que ces lacunes étant particulièrement visibles, il était nécessaire de les faire passer au second plan pour ne pas trop perturber la vision d'ensemble de l'objet. Certains éléments ont été mal compris et de ce fait mal repositionnés au cours du temps lors des différentes interventions. Et nous avons donc procédé dans ce cas à certaines restaurations. Ici, notamment une lampe que nous avons donc remis dans sa position d'origine, comme l'indiquait la trace de colle, en fait, qui était sous l'abat-jour. Le démontage est une opération risquée pour l'objet, et avec l'accord des responsables, nous avons opté pour une structure amovible. Les plafonds démontés de la partie supérieure ont été refixés à l'aide d'aimants, afin de faciliter l'accès au volume des pièces en cas d'intervention future. Toutes les pointes et les clous qui servaient avant à assembler les deux parties ont été conditionnés dans une boîte jointe avec l'ensemble de l'objet. Le couvrement de la partie supérieure n'a pas été refixé et sera simplement posé sur le cadre qui avait été prévu à l'origine. La vitre de façade, quant à elle, a été refixée au paraloïde B72. Il est difficile de préconiser des conditions de conservation idéales dans le cas d'un objet composite. Le constat d'état a montré les effets néfastes des altérations dues aux variations climatiques sur le support bois et les conséquences qui en découlent sur les autres matériaux qui lui sont associés. Il est donc important de maintenir une grande stabilité dans le climat. Nous préconisons, pour des conditions idéales, une température comprise entre 18 et 20 degrés, avec une humidité relative entre 45 et 55%. De même, le constat d'état a montré la grande sensibilité à la lumière des papiers. Il faudra donc prendre en compte les valeurs limites de ce matériau, à savoir 150 000 lux par heure, par an. Cela, évidemment, on reste dans ce qui est idéal dans le type de conservation, dans la conservation de ce type d'objet. L'objet reste fragile et il devra être protégé du public lors d'une mise en exposition. Les recommandations de manipulation et les explications sur le montage et le démontage ont été résumées dans un fascicule qui a été joint aux boîtes de conditionnement et communiqué à la régie des œuvres du musée. Voici quelques images avant et après restauration. Aborder la conservation-restauration d'un objet aussi complexe par sa nature composite a été l'occasion de soulever de nombreuses problématiques. L'objet, sans doute décoratif, a aussi été livré au changement de goût de ses propriétaires, qui se sont amusés à le modifier au cours du temps. Les marques de ces transformations en constituent un élément essentiel qui doit intervenir dans le regard qu'on lui porte et dans le choix de nos interventions. J'ai pu ainsi développer des techniques de restauration déjà connues et les adapter au contexte précis de cet objet. Le travail de collaboration autour de la maison de poupée, avec les laboratoires partenaires et les professionnels des différents domaines de la restauration, s'est avéré primordial pour en saisir le sens. Je me permets, pour finir, de citer la méthode d'observation préconisée par Goethe dans sa phénoménologie de la nature, qui consiste à garder un regard adapté à l'objet qu'on étudie. Appliquer la même méthode d'étude à tout objet étudié conduit parfois à un contresens dans sa compréhension et par là même dans sa restauration. Il est important de conserver une attitude ouverte. Et je rejoins en cela le monde du jeu et de l'enfance, car cette attitude est innée à l'enfant qui n'a pas encore acquis le savoir et les connaissances de l'adulte. Je vous remercie de votre attention.